Ce matin, enfin, tu peux revenir juste avant que je cite le verset biblique. Ne refaites pas seul le chemin de votre vie. Et il n'est pas bon de refaire seul le chemin de notre vie, de votre vie. Dans le deuxième livre, au chapitre 7e, deuxième livre de Samuel, chapitre 7e, verset 17e. Deuxième livre de Samuel, chapitre 7e, verset 17e. Nathan, c'est le prophète, rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi alla se présenter devant l'Éternel, et littéralement c'est se présenter, c'est s'asseoir. S'asseoir en présence de Dieu et dit: qui suis-je, Seigneur Éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux. Seigneur Éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses. Seigneur Éternel, que pourrais-tu dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur Éternel, à cause de ta parole, et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous connaissons tous le chapitre 7e. Et David avait une piété. Et il ouvre son cœur suite à l'arche qui est sous la tente, lui habitant dans une maison de cèdre, et il veut construire une maison à la gloire et à l'honneur du Seigneur. Il consulte le prophète. Il a l'approbation du prophète qui lui dit: « Va, tout ce qui est dans ton cœur, accomplis-le, car l'Éternel est avec toi. » L'Éternel est l'auditeur silencieux de chaque conversation. Il est celui qui n'interrompt point en général là où les conversations, mais il intervient toujours en heure et en temps. Et le prophète va recevoir quelque chose qui est en contradiction avec le souhait de Dieu, et il va aussi révéler certaines choses, elle va devoir retourner vers Nathan pour lui dire qu'il y a un changement. C'est difficile d'aller annoncer qu'il y a un changement. Et donc, il lui révèle que ce n'est pas lui qui va bâtir la maison. Il lui révèle aussi les temps à venir. Je ne sais pas s'il y eut une contrariété dans son cœur, peu importe. C'est toujours que d'après la révélation, néanmoins, c'est Salomon qui a bâti le temple. Et comme le jeune Salomon était ce qu'il était dans sa jeunesse et par peu d'expérience, c'est son père qui a donc tout préparé pour que Salomon puisse exécuter la chose. David a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce que nous devons faire. Il est allé s'asseoir devant l'Éternel. Et dans la Bible, on remarque toujours s'asseoir en sa présence. Alors, bien sûr, vous êtes assis, et nous sommes assis en sa présence. Nous avons chanté, nous avons lu la parole, nous avons aussi partagé le repas, nous avons amené notre offrande, nous avons aussi écouté quelques dons spirituels, et que Dieu soit béni. Donc Dieu lui a communiqué ses pensées. Et cette piété qui est dans le cœur de David va amener toute la reconnaissance la plus profonde pour ce que Dieu a fait pour lui. Il se réjouit avec Dieu de ce que Dieu a le dessein d'accomplir pour lui, pour son peuple et sa maison. Vous avez remarqué au verset 18e, quand il s'assied, il dit au Seigneur, « Qui suis-je ? » Ce n'est pas la question existentielle, le « Qui suis-je ? » D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Et pourquoi je suis là ? C'est plus profond, c'est qui suis-je ? Et il le dit au verset 18e, pour parvenir où je suis. Je suis arrivé là, mais qui suis-je ? Et le Seigneur va donc refaire le chemin de sa vie. Pourquoi j'ai dit « ne refaites pas seul le chemin de votre vie ». Il n'est pas bon de refaire le chemin de notre vie seul. Il faut la refaire avec Dieu. Et c'est Dieu qui va l'amener à refaire ce chemin. Et quand Dieu fait le chemin avec nous, c'est beaucoup plus facile. Je me souviens d'une personne, il y a déjà d'un temps très long, et cette personne était d'un certain âge. Son papa était très, très, très âgé. Et puis, elle va faire le chemin de sa vie avec un professionnel, psychologue, et le psychologue lui donne l'orientation d'aller trouver son père. C'est-à-dire expliquer tout ce conflit qu'il y a eu pendant la jeunesse et autres. Alors le papa avait plus de 80 ans, cette génération-là, et quand elle est revenue de cet entretien, elle est venue me voir en me disant « Voilà, je suis dans un tel état, je suis dans une profonde déception, croyant arranger les choses, elles sont empirées, il y a rupture. » Alors je lui ai dit « Mais cette génération-là n'a pas été habituée à ce qu'on fasse le choc frontal. Les plus jeunes savent pas faire des reproches, mais échanger avec leurs parents. Et vos enfants savent aussi échanger. Des fois, ils font des reproches inappropriés. Enfin, c'est pour dire que parfois, c'est dangereux de refaire seul le chemin de sa vie. Et il n'est pas bon de refaire le chemin de notre vie. Et quand David va dire « Qui suis-je ?», il a déjà un long parcours avec le Seigneur pour que tu puisses et pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. Il sait ce qu'il est devenu, mais il dit « Qui suis-je ?» Et le verset 8e, en réalité, va revenir au point de départ. Vous le lisez dans la Bible. David a eu des moments glorieux avec sur le Goliath. Il a eu une chorale à son honneur formidable. Quand les femmes chantaient ce que Saül était capable de faire et ce que David était capable de faire, c'était différent. Mais il a eu aussi ces moments de découragement, ces moments de passage à vide, ces phases de dépression et même de grave égarement dans sa foi. Et à cette période de sa vie, il avait terrassé le lion et l'ours et arraché les brebis. Il était plein de courage et de foi. C'était son partage, il avait environ 17 ans. Dieu aurait pu venir le chercher dans ces périodes difficiles. Mais quand on refait le chemin avec Dieu, c'est pas la même chose. Et pourtant, Dieu n'arrondit pas les angles. Hein. Nous, on va arrondir les angles pour pas se froisser. Et nous avons raison. Mais le verset 8e nous donne le chemin où Dieu l'a ramené. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël, et j'ai été avec toi partout où tu as marché. Dieu le ramène au point de départ. Et je trouve ça extraordinaire, parce que c'est avec Dieu Et c'est Dieu qui refait le chemin de sa vie. C'est Dieu qui le fait. Laissons faire Dieu et nous ramener là où il veut nous ramener. Et si vous regardez, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai été avec toi, je t'ai accompagné, et même quand ce n'était pas à ma gloire, j'ai fait en sorte de te ramener. Alors, n'allons pas dire dans telle chose Dieu l'a pardonné, il me pardonne. Soyons sérieux comme nous le sommes. Parce qu'il y a eu des moments difficiles et des moments où pour lui, sa vie a bien changé et le Seigneur n'a pas été glorifié. David avait appris aussi quelques instants auparavant, c'est que Dieu n'avait rien demandé concernant la maison pour lui. Mais dit au verset 6e, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, j'ai dit un mot, j'ai rien dit. J'aime ça, j'ai voyagé dans une tente et dans un tabernacle et partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu marche avec nous? Il marche avec vous. Je ne vous tutoie pas, mais il marche avec toi. Il marche avec toi. Ça change. Ça change de savoir qu'il marche avec moi, de savoir qu'il marche avec nous. Son adolescence. Beaucoup de parents, de grands-parents sont inquiets pour la génération de leurs enfants, de leurs petits, dans la société dans laquelle nous vivons. Mais Dieu est celui qui nous garde. Nous sommes entre les mains du bon berger. Il sait quel est notre besoin. Il sait exactement ce qu'il nous faut, bien-aimés. Et quand David va être ramené au point de départ, où Dieu l'a pris, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, c'était une période difficile. C'était le temps des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et Dieu allait entreprendre quelque chose qui était difficile. Nous, parfois, nous pensons que Dieu fonctionne comme ça. Mais non. La Bible nous dit, dans cette période difficile, il s'est mis à chercher. Il voulait quelqu'un qui allait accomplir toutes les volontés de Dieu. Ça ne vous est jamais arrivé de dire à quelqu'un, mais vous ne croyez pas que je vais accomplir toutes vos volontés? Ça ne vous est jamais arrivé de dire cela? Vous ne croyez pas que je vais accomplir toutes vos volontés? Eh bien, Dieu dit, cherche un gars. Je cherche un homme. Je cherche une femme qui va accomplir toutes mes volontés. Si Dieu avait dit ma volonté, c'est facile, mais toutes mes volontés. Et au fur et à mesure, tu vas connaître la révélation de ma volonté. Vous avez vu combien la société, elle a changé. Elle va encore beaucoup changer. Dans moins de 5 ans, vous allez encore voir beaucoup de choses et nous allons voir beaucoup de choses changer. Nous allons peut-être être dépassés, mais il faut être réaliste. Et donc, Dieu, dans cette génération, entreprenait quelque chose qui était très difficile. Parce que quand il dit « j'ai trouvé », ça veut dire « j'ai cherché ». Et dans cette génération dans laquelle nous sommes, Dieu dit encore « je cherche ». Je cherche. Et j'ai trouvé. Il faut qu'il trouve. Et il cherche. Il est souverain. Il ne pense pas comme nous. Il ne parle pas comme nous. Je ne sais pas comment Dieu voit quand nous lui parlons, s'il est bien d'accord avec notre manière de parler. Seigneur, fais ceci, fais cela, fais cela, fais cela. Je ne sais pas s'il est d'accord. Je ne sais rien. Demandez-lui. Mais Dieu s'est mis à chercher. Et très souvent, nous ignorons ce que Dieu fait, ce qu'il pense et ce qui le fait agir. Je disais que David, il a gardé ce si peu de brebis. La fidélité à ce si peu. À ce si peu, si peu de brebis, si peu de ceci. Parfois, nous sommes influencés par ce que nous vivons dans notre société, si peu, si peu. La Bible nous dit dans le psaume 78e verset 70 à 72, les yeux se sont portés sur un berger, un jeune. Et Dieu a trouvé un jeune homme. Parce que quand Dieu cherche, il trouve. Hein. Il trouve. Et son regard s'est posé. Et la Bible nous dit au psaume 89e, verset 20e, « Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Le fortifiera. Dieu connaissait son cœur. Et Dieu connaît votre cœur et mon cœur. Et Dieu l'a tiré des bergeries. Il l'a pris derrière ses brebis qui allaitaient. Voilà pourquoi Dieu, quand il nous fait faire le chemin avec lui, il voit les choses d'une manière comme il faut voir avec ses propres yeux. Ne l'a pas fait dans les périodes de découragement, dans les périodes de passage à vide, dans les phases de dépression, dans les phases de grave égarement, mais là, il le ramène au point de départ. Et le point de départ de notre vie nous a toujours marqués. Nous avons été marqués par Dieu. Nous avons été scellés de Dieu, scellés par l'Esprit de Dieu. Et bien-aimés dans la foi, je crois que les problèmes pour David ont commencé le jour où Dieu l'a pris au pâturage. Alors direz-vous, on en a assez de problèmes, on n'en veut pas encore de supplémentaires. Oui, c'est vrai. Un jour, j'avais quelques gros problèmes, mais ça remonte très loin. Puis un frère que je connaissais lorsqu'il avait eu 16 ans, je l'avais aidé. Et puis il m'a dit un jour, il a plus de 60 ans maintenant, il m'a dit un jour, vous avez dit une parole, les difficultés ne sont pas faites pour nous abattre, mais pour les abattre. Et c'est vrai, parfois les problèmes ont commencé le jour où Dieu l'a pris au pâturage. Vous vous souvenez comme il a été exclu de la famille quand l'homme de Dieu est venu pour oindre le futur roi. On l'a laissé au pâturage. L'exclusion, c'est quelque chose que je vis mal, que vous vivez mal. Et quand l'homme de Dieu s'est trompé, il a dit, oh, c'est Eliab, il est grand, il est fort, il est beau, il est puissant. Alors il a dit à l'Éternel, c'est celui-ci. Et Dieu lui a dit, non, c'est pas celui-ci. Toi, tu regardes à l'extérieur, mais moi, je regarde au cœur. Ah oui. Et puis tout le monde est passé, personne. Alors, t'as plus personne ici? Oh, j'en ai un petit jeune là-bas. J'ai un ado. Moi, j'ai remarqué que les ados, ils aiment pas beaucoup être appelés les ados. Hein. Alors, je dis plus les ados, je dis les jeunes. C'est mieux, hein? Oui, là, on me donne son approbation, là. Hein. Et oui, et quand tout le monde a vu que c'était lui, ah, Eliab était pas content, hein. Et des fois, quand Dieu va nous donner quelque chose, il y a des fois Eliab qui peut réagir. Et quand David descend, il apporte le ravitaillement sur le champ de bataille, ce jeune, Eliab lui dit, espèce d'orgueilleux, c'est terrible quand on vous insulte. C'est terrible. Tu viens là pour ça et ceci. Mais Dieu regarde ce qui est en notre cœur. Et celui que Dieu, que l'homme n'aurait pas choisi, va l'être par Dieu. Et celui qui est rejeté par l'homme choisi, par Dieu. Dieu a choisi celui qu'Ésaïe avait oublié. Il est trop jeune, trop petit, trop insignifiant. C'est lui que Dieu avait choisi, qui avait choisi celui que ses frères méprisaient. Et l'homme peut nous oublier, nous mépriser, nous méconnaître, mais Dieu est celui qui sait ce qu'il fait. Bien-aimé, aussi on peut lutter. Et c'est là le plus grand problème que Dieu avec moi toujours. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Personne ne peut rentrer à l'intérieur de votre cœur. Vous avez votre vie privée. Et qui sommes-nous pour pouvoir entrer dans l'intérieur du cœur? Mais c'est un lieu de résistance, hein, à l'intérieur. Hein. Je ne dis pas fermé. Je ne dis pas barricadé. Moi, quand après mon accident de voiture, quelques mois après, je suis revenu dans l'église. Et puis, nous avions tous nos projets pour notre vie. Et quand nous sommes arrivés dans l'église, enfin je suis arrivé, il y a une prophétie. Puis en plus, c'était un membre de ma famille. Or ça, c'était la dernière chose qu'il fallait. Hein. Et cette parole disait que Dieu m'appelait à son service. Et quand on était venu me voir sur mon lit de mort à cette époque, puisque j'étais entre la vie et la mort, les chrétiens faisaient jusqu'à 300 kilomètres. J'avais été marqué pour rester que quelques minutes pour me dire « on prie pour vous, on prie avec vous ». Et on a l'impression que Dieu va vous appeler à son service. Vous savez, quand vous êtes à l'article de la mort, que vous êtes là avec des broches de partout, etc. Et qu'on vous dit, mais on a l'impression que Dieu... Alors vous répondez tout de suite, non, Dieu ne m'appelle pas. Alors le dimanche matin, quand Dieu m'a appelé, il y a eu de la résistance quand même, hein. Il y a eu de la résistance. Quand j'ai salué le pasteur, il y a eu de la résistance. Quand j'ai pris mon repas, il y a eu de la résistance. Mais quand j'ai voulu revenir à la réunion l'après-midi, je me suis dit, il faudrait quand même que je m'agenouille devant Dieu et que j'arrête ma résistance. Pas facile la résistance, hein. Et je ne sais pas comment c'est pour vous, hein. C'est Noël, alors je vais vous dire que des bonnes choses, comme d'habitude. Mais quand il y a de la résistance, on n'est pas toujours de... Allez, on n'est pas toujours à prendre avec des pincettes. Hein. On n'est pas très agréable. On n'est pas comme cela. Ça se passe mal. Moi, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, hein. Mais c'est ça l'être humain, la résistance. David va apprendre « Qui suis-je pour que je sois arrivé là ?» C'est Dieu qui fait réussir notre vie. Il nous prend là où nous sommes, dans notre pâturage. Mais quand nous arrivons là, nous avons le droit de dire « Seigneur, qui suis-je pour que je sois arrivé là ?» C'est vraiment par ta grâce. C'est vraiment par ta bénédiction. Que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle ou votre vie d'église, qui suis-je pour que je suis arrivé là ? C'est là la grâce et la bénédiction. Il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent. Et tu vas devenir le chef. Le Seigneur est celui qui sait nous attirer. Son regard sait parler à notre cœur. Son regard sait toucher notre cœur et nous faire grâce. Je voudrais conclure... Ne refaites pas votre vie, votre chemin, seul, mais avec Dieu. Refaites-le toujours avec Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 2e, verset 11e. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Bah, il a très mal commencé son ministère. Hein. Tu ne pas? Il y a des périodes où c'est difficile. Hein. Et la Bible dit ses frères n'ont pas compris son intervention pour venir le libérer. Il avait un appel. Alors, quand il a fait cela, il s'est sauvé. Et la Bible nous dit, au verset 15e, « Pharaon a appris ce qui s'était passé, et il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. » C'est un homme qui a 40 ans. Lars n'est pas un ado. 40 ans, on est assis, on a une expérience de la vie. Et Moïse aurait pu dire à Dieu, « Tu sais à quoi j'ai renoncé ? C'est par la foi que j'ai refusé d'être appelée la fille de Pharaon. C'est par la foi que j'ai refusé tous les honneurs. J'avais un avenir glorieux dans l'Égypte. Mais quand il s'arrête près du puits, il ne regardait pas derrière lui à ce qu'il avait renoncé. Il ne regardait pas l'incompréhension de ses frères. Il ne regardait pas la situation dans laquelle il se trouvait. Mais la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, il regardait plus loin. Et c'est ça qu'il faut que nous fassions, bien-aimés. C'est que nous regardions plus loin. Épître aux Hébreux, chapitre 11e, verset 23e et verset 27e. Verset 23 et 27, chapitre 11e. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par sa foi. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 52e, verset 14e, il nous est dit concernant Jésus, tant son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. C'est le Messie, c'est le Seigneur. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais nous le voyons couronné d'honneur et de gloire. Moïse a dû s'enfuir, mais il n'a pas regardé derrière, il a regardé devant. Et il est resté ferme sur celui qui est dans l'invisible. Et pourquoi ? Parce qu'il savait ce que Dieu avait déposé dans son cœur était vrai et réel. Et que les choses allaient s'accomplir. Imaginez que je sois arrivé voir Moïse dans l'état où il était. Et je lui dis, mais Moïse, qu'est-ce qui t'arrive? T'es assis au bord du puits? Bah, tu t'es trompé, Moïse. Puis encore, écoute, il va falloir que tu ailles te livrer, tu as fait des choses mal. Moi, je l'aurais ramené à l'arrière. Hein. T'as vu les... C'est pas écrit, hein, ce que je vais vous dire. Mais les doigts de pied de l'Égyptien qui dépassent. Hein.
Ouais.
Ouais. Ah, c'est fini, Moïse. Hein. Non, non, non. Non, non, c'est fini. Hein. Non, non. Ce que tu as fait, là, c'est grave. Et c'était grave. Hein. Mais tu sais, c'est... Non, 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 c'est terminé, Moïse. Mais Moïse voyait plus loin. Il vous racontait une expérience. Nous sommes toujours en train de faire l'historique, et plus ça va, plus il grandit, l'historique. Puis notre sœur historienne me dit, mais comment vous voyez l'avenir ? Comment vous voyez l'avenir ? Bah, je lui dis, à mon âge, j'ai pas beaucoup d'avenir devant. Hein. Il me reste moins à faire qu'à faire. Mais je dis, l'Église, elle est à l'avenir. Eh oui, il faut être réaliste. Hein. Vous me dites que je suis toujours le même, mais quand je regarde la photo, je suis plus tout à fait le même. Hein. Et puis la sœur, en quelques minutes, vu ses études, vu son bagage, elle m'a dépeint en quelques minutes l'avenir de la société, l'avenir de l'Église, des Églises. Et ça m'a amené beaucoup à l'interrogation. Il nous faut préparer l'Église au glorieux retour. Il faut préparer l'Église au premier retour. Et ce que Dieu va vous donner, parce que Dieu vous a fait des promesses, et il va vous les donner. C'est pas quelqu'un qui nous fait des promesses pour nous laisser dans l'illusion. Quand Dieu a fait des promesses, il nous les donne. Et frères et sœurs, c'est lui qui est l'avenir. C'est lui qui nous dirige. Refaisons le chemin avec Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Il vous aime. Et Moïse s'est levé. Et il a fait un travail extraordinaire. Les moments les plus difficiles sont parfois, c'est là où Dieu nous donne le plus. Et les portes s'ouvrent. Mais c'est pas facile. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne une grâce particulière. On va se lever et on va chanter « Oui, règne en moi ». Règne en moi. Et puis vous avez le programme. Dimanche, 1er janvier. Le dimanche après-midi sera un peu différent. Nous garderons la parole. Nous prierons les uns pour les autres.